De ma part, je voudrais aussi saluer tous et souhaiter à tous la bienvenue dans le nom précieux du Seigneur. Nous n'avons pas pu, dans une lettre circulaire, annoncer ces réunions, mais nous nous réjouissons de ce que vous soyez malgré tout venus en un si grand nombre. Il y en a qui ont demandé, est-ce qu'il y aurait même des réunions? Mais tant que nous sommes sur terre, nous nous rassemblons pour écouter la parole du Seigneur. Nous nous réunissons et nous voulons racheter ce temps. Il devient toujours plus cher, toujours plus mauvais, mais toujours plus précieux pour les croyants, pour ceux qui ont été appelés par Dieu, qui ont reçu sa grâce et à qui il s'est révélé. Je suis venu simplement sans concept, mais Dieu, lui, il a un concept, il a un plan. Je veux que nous soyons totalement libres et détendus, rassemblés devant la face du Seigneur et commencer à croire, comme l'a dit les Écritures, commencer à croire que Dieu restaure toutes choses et que nous sommes une partie intégrante du royaume de Dieu, que nous le sommes devenus et qu'aujourd'hui nous avons les mêmes promesses qui étaient valables au commencement et qui doivent s'accomplir. Nous croyons que nous vivons encore dans les jours des apôtres. C'est une chose difficile, mais nous croyons simplement. Nous croyons que Dieu a commencé lui-même le Nouveau Testament et que cela reste ainsi valable jusqu'au retour de Jésus-Christ. Même si des hommes ont fait les choses et beaucoup de choses différemment, Dieu, lui, n'a rien fait différemment. Sa première décision a été la dernière. Elle était juste et elle reste juste pour toute éternité. Dieu n'a jamais changé ses décisions. Et c'est ainsi que nous voulons mettre notre confiance dans ces jours en Dieu. Et en même temps, s'attendre pendant que nous observions, nous écoutons sa parole, nous attendre à ce que son esprit commence à agir en nous et que nous puissions expérimenter personnellement les choses qui nous sont prêchées. Que ce ne soit pas seulement comme si nous prenions part à un cours et soyons enthousiasmés de ce qui s'est passé autrefois ou bien a été expérimenté autrefois, mais que nous puissions aujourd'hui personnellement expérimenter ces choses-là. Combien veulent être vraiment baptisés d'esprit, baptisés d'esprit bibliquement, vraiment, oui, qui ne le veut pas? Nous croyons en cela, nous croyons dans notre cœur que la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, que le baptême du Saint-Esprit achève la conversion de celui qui a cru. Mais d'abord la conversion. Et ensuite, c'est seulement après la conversion que la vie et la marche avec Dieu commencent. Mais la conversion peut être une expérience. Mais la vie avec Dieu, c'est une croissance continuelle dans l'obéissance, dans la foi, à la suite du Seigneur, en suivant le Seigneur. Et dans tout ce qu'il a, dans tout ce qu'il nous a ordonné et tout ce que nous avons reçu de lui, dans l'obéissance, nous voulons avoir cela sous nos yeux. Dans la parole d'introduction, nous avons lu des pensées merveilleuses et entendu des pensées merveilleuses. Un fleuve est là. Ses flots réjouissent la ville de Dieu, son sanctuaire, la demeure du Très-Haut. Dieu habite en elle, elle ne s'ébranlera pas. Si Dieu est parmi nous, alors nous ne pouvons pas nous ébranler. Nous sommes plantés comme un arbre auprès des courants d'eau, dans des courants d'eau. Toujours de nouveau, cela s'est fait entendre. Le Seigneur, l'Éternel des armées est avec nous. Il est une forte forteresse, le Dieu de Jacob, pour nous. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'y en a pas un autre. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Et ce seul Dieu unique s'est révélé en nous, en Jésus-Christ, son Fils, seul engendré de lui. Il s'est révélé en lui, son Fils, comme homme, donc comme un homme, en forme humaine. J'aimerais lire aujourd'hui d'une prédication de frère Branham le plus possible, et demain continuer avec l'observation de la parole de Dieu. Je voudrais, de Matthieu chapitre 3, je voudrais lire deux versets. Matthieu chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 12. Donc deux écritures ici dans Matthieu d'abord. 3, verset 10 jusqu'au verset 12. Matthieu 3, verset 10. Mais déjà la hache est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Je vous baptise d'eau seulement pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Et je ne suis pas assez bon pour lui ôter ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a dans sa main la pelle de vannage et il nettoyera à fond son aire de battage. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Nous savons que c'est une partie de la prédication de Jean-Baptiste qui préparait le chemin au Seigneur et aplanissait sa voie. Et c'est brièvement, comme introduction, il a dit que le Seigneur, n'est-ce pas, porte toute la responsabilité, a pris toute la responsabilité. Il a dans sa main l'appel de vannage pour trier et il nettoyera à fond son air de battage. Toi, tu n'as pas besoin de prendre un balai pour nettoyer à fond son air, et moi non plus. Ça, il fait tout ça lui-même. Car toi, tu pourrais très rapidement, n'est-ce pas, balayer le blé et la paille en même temps, il est ramassé. Non, lui, il trie, il sait ce qu'il fait. Il a dans sa main la pelle de vannage et il nettoyera à fond son air de battage. Pas un autre, pas un apôtre, pas un prophète, pas un homme de Dieu. Lui-même, le Seigneur, a pris cette responsabilité. Et nous voulons, jusqu'à la fin, le laisser faire cela. Lui seul. Mais il amassera son blé. Pas seulement le blé, mais son blé. Nous sommes de son espèce. Lui, comme grain de blé, il a été placé en terre, au sol. Il est mort. Et il est ressuscité. Et c'est pour cette raison qu'il n'est pas resté seul. Mais il a porté beaucoup de fruits. Et nous avons la grâce d'être ce fruit. Son blé. Pas un blé, mais son blé. Il l'amassera dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Le verset connu de Actes des Apôtres, chapitre 2. Ici, je veux seulement lire les premiers quatre versets. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il se leva du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils se trouvaient. Des langues leur apparurent comme du feu, se divisant en petites flammes, et une se posa sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Seulement très rapidement, je viens de le ressentir. Je ne l'avais jamais vu comme ça ou bien réfléchi comme ça. Mais avant de prier pour le baptême de cet esprit et de l'expérimenter, de vouloir l'expérimenter, nous devons être prêts à mettre notre langue au service de Dieu. Ici, il ne s'agit pas seulement d'une onction. Il ne s'agit pas seulement de signes de prodiges, de miracles ou bien de dons de l'esprit. Ici, il s'agit que notre langue soit pénétrée du feu divin et ensuite soit mise au service de Dieu pour annoncer ensuite les merveilles de Dieu. Pour pouvoir ensuite annoncer, celui qui veut continuer à utiliser sa vieille langue, il pourra même peut-être mieux après l'utiliser. Ça, nous l'avons tous constaté. Des hommes oints de l'esprit qui n'ont pas été régénérés, qui n'ont pas expérimenté une nouvelle naissance réellement, mais qui ont reçu une onction, peuvent produire plus de dégâts avec leur langue, trois fois plus grave. Quelqu'un qui veut être baptisé du Saint-Esprit, un homme, doit être prêt d'abord à abandonner sa langue, à la mettre vraiment à la disposition du Seigneur, d'être conscient qu'elle ne lui appartient plus. Et nous le voyons ici. Ce ne sont pas des yeux, bien des oreilles qui leur apparurent, ou bien des pieds, bien des mains qui leur apparurent, comme du feu, se divisant. Mais des langues leur apparurent, comme du feu, se divisant en petites flammes. Oui, Jacques écrit que la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. On peut dompter toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, etc., mais pas la langue. Et cela est écrit ici dans Jacques. Des langues ici leur apparurent comme du feu, se divisant en petites flammes, et une se posa sur chacun d'eux. Sommes-nous tous prêts à consacrer notre vie, à remettre nos paroles au Seigneur, nos entretiens, notre témoignage, tout ce que nous pouvons faire sur terre pour la gloire de Dieu? Sommes-nous prêts à vivre une vie avec Dieu comme ça, qui lui plaise? Sommes-nous prêts d'arrêter avec tout ce qui nuit et participer et vivre et voir l'édifice de l'Église, alors le baptême du Saint-Esprit sera pour nous une grande bénédiction, et pas seulement nous, mais aussi tous ceux qui, avec nous et par nous, recevront et entendront les merveilles de Dieu. Il est écrit sur verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, nous le souhaitons à tous de tout notre cœur. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Paul écrit aux Corinthiens que nous combinons un contenu inspiré par l'Esprit avec un langage inspiré par l'Esprit. Et nous savons que tous ceux qui ont été remplis de Saint-Esprit ont, n'est-ce pas, annoncé les merveilles de Dieu. Lisez la prophétie ou bien la louange de Marie ou bien de Zacharie et vous constaterez que c'était ainsi. C'est l'Esprit qui leur a donné de s'exprimer, ou bien Siméon ou bien Anne qui furent remplis de Saint-Esprit. Dans Luc, ils n'ont pas parlé en Dieu à côté de lui et outre Dieu et ce qu'ils faisaient dans leur époque. Mais ce qui se passait dans leur jour, dans l'histoire du salut, ils l'ont placé sur le chandelier, ils l'ont mis en lumière par l'inspiration et la révélation du Saint-Esprit et la conduite du Saint-Esprit. C'est comme ça aussi dans notre temps. L'Esprit de Dieu, s'il nous donne de nous exprimer, il mettra en lumière ce qui se passe maintenant, particulièrement la parole prophétique, les promesses dans leur accomplissement pour notre temps. De la prédication, le signe, sûrement connu de la plupart de nous, je voudrais lire plusieurs choses. J'espère que personne ne sortira à cela, sinon s'il y en a parmi nous qui ne savent pas de quelle prédication je lis, c'est une prédication de Frère Branham, que Frère Branham a tenue, c'était quand? En 1963, je crois, oui, 63. Et Dieu, n'est-ce pas, d'une manière particulière, l'a utilisé. Et nous croyons qu'il était un homme envoyé de Dieu. Et nous croyons que le message de Dieu lui a été confié pour le peuple de Dieu. et que, en dehors de ce message, il n'y en aura pas un deuxième qui peut venir et qui viendra. Pas un deuxième, pas un autre. Et pas un autre messager non plus, pas un autre prophète, mais selon le destin du salut de notre Dieu, il est écrit qu'il y avait sept âges de l'Église et ça, sept anges, et nous vivons dans le septième âge de l'Église. Et après cela, plus rien ne suit. Maintenant vient la perfection, l'achèvement. Et nous sommes aussi de tout notre cœur reconnaissants à Dieu pour cela. Ça, que cela soit aussi mentionné ici, avant que je commence à lire, nous avons au moins reçu la grâce, n'est-ce pas, d'avoir conservé le message divin tel que nous a été transmis. Nous n'en avons pas fait un autre message, nous n'avons pas tordu les choses, transformé le message, mais nous avons laissé et nous l'avons cru tel qu'il nous a été transmis. Et ici, Frère Branham dit, nous sommes ici pour écouter la parole. La parole qui nous a été transmise, que nous avons reçue, c'est ce que nous voulons, car c'est la seule. C'est la seule chose qui nous signifie tout. Quelque chose qui demeure, qui est capable de nous aider. Dieu envoie sa parole pour nous aider, pour nous guérir, pour nous corriger et pour nous donner des instructions, des révélations et de l'enseignement par sa grâce. Ce mot ici, le signe, l'expression le signe, vous l'avez entendu. Dieu, depuis le commencement, a parlé de ça. Du temps de Noé, il disait que cela soit le signe de l'alliance. Il parlait de l'arc-en-ciel. À Moïse, il a été dit, deux signes te seront donnés. Ensuite, du sang qui devait être appliqué sur les lintes des portes, cela devait être le signe. Toujours de nouveau, Dieu a toujours parlé du signe, d'un signe. Jusqu'à ce que Dieu, même dans le prophète Esaïe, disait, exige de moi un signe du haut des cieux, ou bien ici de la terre. Et ensuite, il dit, moi-même, je vous serai un signe. Je vous donnerai un signe. Et ensuite, un signe qui sera contredit. Maintenant, rapidement, pour que nous puissions voir ce que cela veut dire ici. J'ai seulement mentionné ça pour que nous puissions savoir ce que cela veut dire, un signe. Ici, il est dit, faisant référence au verset de Exode chapitre 12, verset 13, que le sang soit pour vous un signe. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un signe? C'est un signe. Le signe est la preuve, par exemple, que le prix d'un parcours a été payé. Le prix d'un ticket a été payé. C'est une preuve pour vous et doit être utilisé conformément à son but. Frère Branham a pris avec ce don-là de prendre des exemples pratiques de la vie, donc liés à des exemples naturels, liés à des choses de la vie pour exposer et révéler les choses spirituelles. Ensuite, il dit ici, Dieu riche en miséricorde a offert un sacrifice à la place du pécheur. Ce sacrifice consistait à faire mourir quelque chose à la place du coupable, un sacrifice de substitution. Rien d'autre ne pouvait produire cela. Nous devons comprendre la rédemption à sa racine. La rédemption ne veut pas dire de venir à Dieu et de dire « j'ai rien fait de mal ». Non, la rédemption, être sauvé, être délivré, veut dire de se reconnaître perdu et coupable et crier au secours d'un cri de détresse, pas seulement avec les lèvres, mais d'un cri de détresse sincère de tout son cœur, de venir à Dieu, selon la parole de l'Écriture. Invoque-moi au sein de la détresse et je te sauverai. Les conversions du 20e siècle sont des conversions tous sans douleur de naissance, sans douleur d'enfantement et cri de détresse. Mais Dieu peut nous introduire dans ce cri de détresse. Dieu le fera, même si cela est nécessaire. Il devra le faire. Ce cri de détresse, c'est cette douleur d'enfantement. Je continue à lire. Il ne s'agissait pas seulement d'offrir le sacrifice, mais il s'agit de rendre le sacrifiant, celui qui sacrifie, semblable à son sacrifice. Donc, celui qui sacrifiait devait s'identifier à son sacrifice. Il savait que cet animal qui aurait pu continuer à vivre doit maintenant mourir parce que moi, je suis devenu coupable. Donc ici, il s'agit d'être assimilé complètement et d'être rendu semblable donc, au sacrifice. Le sacrifiant, celui qui sacrifie, doit être rendu semblable à son sacrifice. Que cela nous soit révélé par le Saint-Esprit et que nous puissions voir en esprit l'agneau de Dieu parcourant pour nous ce chemin sur le sommet de Golgotha et nous identifier à lui comme si nous étions cet homme qui à la fin devait porter la croix, que nous soyons allés avec lui comme ça jusqu'à cet endroit pour être crucifiés avec lui. Ici, il est écrit encore ici. Pouvez-vous voir la prédestination maintenant? Il était né agneau. Il a grandi agneau. Il est mort agneau. Il était l'agneau. C'est donc la seule sorte de nature d'esprit que la parole et Christ peuvent accepter. Les autres essayeront de l'obtenir. Mais comment pouvez-vous mettre l'Esprit de Dieu sur une nature de loup? Ici, nous devons faire une pause. Il s'agit ici de la parole. La même sorte de nature d'esprit, la même sorte. Dieu produit tout ça selon son espèce. Nous connaissons cela de l'exposé de la création. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit trois fois à Pierre, « Paie mes brebis, prêt, paie mes agneaux. » Pourquoi est-ce qu'il disait, « Moi, comme le bon berger, je donne ma vie pour les brebis. » Mes brebis, écoute, entendre ma voix. Avec lui, être identifié avec lui. Lui, l'agneau de Dieu. Nous, nés de lui. Nous avons en nous, nous portons la nature de l'agneau, la même nature de l'esprit, par la même vie naturelle et pardon spirituelle divine qui était en lui. C'est comme ça que la relation est possible. Tout le reste, c'est d'essayer. C'est un essai qui est déjà jugé à échouer. Nous essayons pas d'être en accord et d'être accordé avec Dieu, mais nous nous laissons par Dieu, par sa parole, être apporté en accord avec lui. Et nous ne résistons pas. Vous savez, j'ai des brebis ici depuis plusieurs temps, depuis un certain temps, et ils ont aussi parfois leur jour. Hein, mais qu'est-ce que je vais vous dire? Je n'ai jamais vu une seule fois que leur poil se soit dressé comme ça, comme le loup peut le faire. Hein. Vous avez vu un loup? C'est très rapide. Hein. Ses poils se dressent. On remarque comment est-ce que ses poils se lèvent. Alors là, c'est déjà le temps pour partir. Mais je n'ai jamais vu ça chez une brebis. Quoique les boucs, parfois, les cognent. Mais personne n'a besoin de lui en vouloir. C'est sa nature de faire du mal aux autres. Continuons à lire. Je me demande aujourd'hui si quand Dieu nous conduit à une vie de parfaite consécration et dévotion à son service, je me demande si notre esprit ne se rebelle pas parfois. Sûrement que nous voulons tous que Dieu se manifeste, n'est-ce pas? Mais nous voulons, n'est-ce pas, avoir notre chemin. Nous voulons que les choses aient lieu d'une manière qu'on n'ait pas besoin de mourir à nous-mêmes, de nous donner entièrement au Seigneur et de nous abandonner. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Il va devoir avoir des sacrifices avant que cet accord parfait et cette livraison, cette dévotion, cette consécration ait lieu devant Dieu. Je ne m'exclus pas. Nous appartenons tous à cela. Nous sommes tous inclus. Et pour finir, nos corps, comme un sacrifice agréable à Dieu, nous l'aurons placé sur l'autel de notre cœur pour pouvoir dire, pas de nos lèvres, mais de nos cœurs. Mais voici, Seigneur, fais avec moi ce que tu veux. Ce que tu veux. Que ta volonté soit faite comme sur la terre, comme au ciel. Et alors nous avons atteint cette position, cet état, si vraiment nous le pensons de tout notre cœur, ce que nous avons dit de notre bouche. Alors à l'Église, ce que c'est que la puissance et les ministères et la légitimation divine, la confirmation, aucune limite sera accordée, sera donnée. Je pense que tous, à 100%, nous sommes convaincus que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je regarde maintenant à un bien-aimé frère, de Kitsé. Il me disait, il me parlait d'une douleur et il parlait sans la foi. Et j'ai dit, mais tous nous vieillissons. Et j'ai même parlé de Jacob qui est devenu aveugle, qui ne voyait plus. Il dit, mais c'est pas pour ça que nous sommes venus. Nous ne sommes venus pour être sauvés, pour être guéris par Dieu. Pas venus pour entendre de telles choses. Et c'était déjà ma première leçon que j'ai reçue hier. Ma leçon. Et c'est comme ça que là nous arrive encore parfois. Nous voulons comme homme parfois consoler et dire oui, ça peut arriver. Mais Dieu veut et Dieu exige de nous que nous puissions nous, en toutes choses, parler sous le fondement de la foi, de la parole de Dieu et faire confiance à Dieu. Et quoi qu'arrive, que sa volonté soit faite. Et personne va à cause de ça demander des comptes à Dieu. Encore si je continue la citation. Un agneau est obéissant. Un agneau est ne pense pas à lui, il ne revendique même pas ce qui lui appartient. Vous pouvez le poser et tondre la laine, il ne s'y opposera pas. Il sacrifie tout ce qu'il a. C'est un agneau. Il abandonne tout, lui-même et tout ce qu'il a. C'est ainsi avec un vrai chrétien. J'ai fait que lire. Hein. J'ai rien dit encore. Et déjà maintenant, vous pouvez nous poser la question. Est-ce que nous sommes donnés ainsi au Seigneur? Vraiment? De tout notre cœur, avec tout ce que nous sommes et avons. Nous lisons ici, un agneau donne tout ce qu'il a. Même sa laine, je l'ai toujours vu. Il n'ouvre pas sa bouche. Le tondeur peut tondre et la brebis ne dit, on n'entend rien. Ici, il est parlé de nous qu'avons cru. Nous chantons souvent, ma volonté appartient à mon Dieu. Je vis pour Jésus, Jésus pour Jésus seul. Mais comment c'est dans la pratique? Pas seulement chanter, mais dans la pratique, que Dieu nous l'accorde dans la pratique réellement. Que cela puisse devenir une réalité. C'est écrit encore ici. Citation. Alors l'agneau, le sang et la personne deviennent un. Le sacrifice et le croyant sont unis. Ici nous avons le pont. L'agneau de Dieu, le sang qui a coulé pour nous et tous ceux qui par le sang ont été rachetés. Une union divine a eu lieu. Dieu était en Christ et nous a réconciliés avec lui-même et en nous pour habiter ensuite en nous, pour venir habiter en nous. Donc si notre volonté est placée dans la volonté de Dieu, si l'agneau de Dieu, le sang qui a coulé et la personne qui ensuite se confesse pour cette œuvre accomplie pour lui, s'ils deviennent un, alors Dieu pourra se manifester justement par cette personne croyante qui a été ainsi identifiée avec son sacrifice et est devenue un avec son sacrifice. Et ça, nous l'avons dit aussi tout à l'heure, que nous devons nous préparer intérieurement, de cœur, à apporter un sacrifice total, à devenir un sacrifice entier sur l'autel de Dieu. Isaac, si je peux bien me rappeler, a été même attaché, lié et placé sur l'autel dans la certitude. Cela reste ainsi. Et c'est seulement là, comme ça, que Dieu a pu intervenir du haut des cieux, a pu dire, Abraham, maintenant je vois que tu es totalement obéissant. Dieu a examiné jusqu'au bout. Heureux ceux qui, dans son épreuve, que Dieu lui donne jusqu'à la fin, aille jusqu'à la fin, jusqu'à que Dieu lui réponde et n'arrête pas, ne descend pas. N'arrête pas, ne dit pas peut-être un moment, là, je ne peux plus continuer. Non. Allez jusqu'au bout. Il y avait même des buissons. Je suis heureux que cela soit écrit dans la Bible. Abraham a regardé autour de lui, il a vu un bélier qui s'était, n'est-ce pas, retenu dans un buisson par les cornes. Parfois, nous pouvons passer par des buissons, par des déserts, et subitement, quand nous pensons que cela ne peut plus continuer. Dieu nous ouvre les yeux. Et nous voyons l'agneau de Dieu, le sacrifice sur la croix à Golgotha. Nous recevons un nouveau courage et reconnaissons qu'il mourut à ma place pour que je puisse vivre pour lui. Ça, c'est la grâce que Dieu nous a accordée. Elle continue encore. Ici, vous êtes identifiés dans votre vie par votre sacrifice. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Ainsi, le signe était la preuve de l'appartenance. Le sang prouvait que l'adorateur avait sacrifié l'agneau et qu'il avait été accepté. C'était le signe qui était appliqué. Quelle parole merveilleuse! Je ne sais pas si nous pouvons suivre tout cela, si nous sommes dans la chose concentrée. Pour moi, c'est très important. Et je crois pour nous tous, il s'agit maintenant de tout. Pour atteindre le but, nous sommes en train d'arriver vers la fin, à chaque pas, pas à pas, et nous voyons en tout ce qui se passe autour de nous. Nous ne savons pas combien de temps cela durera encore. Mais il y a une chose que nous savons, c'est que le temps, avec sûreté, va vers sa fin et que nous pouvons nous attendre avec le retour du Seigneur. Et nous devons nous attendre à son retour très proche. Et c'est peut-être raison que nous observons toutes ces citations. Pendant que ce soir, nous nous préparons à nous donner comme sacrifice, à nous mettre à disposition du Seigneur entièrement. Il regarde nos cœurs, il sonde nos reins, il sait si nous sommes laissé une porte ouverte par derrière pour pouvoir ensuite sortir par derrière. Non, il veut comme frère Branham, dans la prédication, les portes derrière la porte. Il veut que nous puissions lui ouvrir tout, pas seulement la porte principale, mais toutes les portes de sortie même, les portes de secours. Il y en a qui ouvrent la porte principale, peut-être, et puis ensuite, nous l'avons entendu dans la prédication. Seigneur, reste ici, nous avons besoin de toi, nous ne voulons pas nous perdre. Tu viens quand on t'appelle comme sauveur, maintenant tu es rentré, reste ici à la porte, mais les autres portes restent fermées, ou bien c'est écrit privé, ou bien entrée interdite, etc. C'est pas possible comme ça avec le Seigneur. Dieu veut, il veut nous avoir entièrement pour lui, à sa disposition. Lui s'est offert entièrement pour nous, il veut aussi, à tous ceux qui lui appartiennent, il veut les avoir entièrement. Pour tout ce qui lui appartient. Je continue à lire. Le vrai christianisme doit faire ses preuves en public, dans la vie publique, au bureau, dans la rue, lorsque des problèmes surviennent, où que ce soit, dans l'église ou ailleurs. Là, nous avons ici les épreuves qui surviennent, mais elles viennent, elles nous arrivent pour que nous puissions les réussir, les surmonter et persévérer en elles, jusqu'à que Dieu nous conduise, nous dirige et nous en fait sortir et que nous nous laissions les décisions à prendre. Et ça continue encore ici. Ensuite, il est écrit, il dit, le sang est le signe et le signe doit être appliqué. Sans lui, même l'alliance serait inefficace, sans effet. Et là, je pense à Matthieu 26, verset 26. Ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. Le Nouveau Testament, avec tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament est entré en vigueur pour tous ceux qui croient pendant le temps de la nouvelle alliance. L'alliance par le Saint-Sang de l'agneau de Dieu est entrée en vigueur. Toute promesse, chaque promesse qui nous a été donnée s'applique à nous et peuvent s'appliquer à nous et être exécuté en nous et accompli en nous. Ça continue encore ici. L'agneau a été égorgé le soir et le sang a été appliqué le soir. Vous avez compris? C'est le soir que cette action a eu lieu. Nous vivons maintenant dans le temps du soir, de cet âge. C'est le temps du soir pour l'Église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir pour mon message. Je meurs. Je pars. Je sors dans le temps du soir de l'Évangile. Seigneur, demeure avec nous, reste avec nous. Car le jour va à son déclin. Nous allons maintenant vers l'heure de minuit. Et comme nous le disons et nous comprenons ici, les choses qui, dans les âges passés, n'avaient pas été exigées depuis l'âge de la Réformation, ou bien alors les réveils qui ont suivi la Réformation, cela est exigé de nous aujourd'hui, est demandé de nous aujourd'hui. Car ceux à qui beaucoup ont été donnés, il leur sera beaucoup demandé, redemandé. Et ce qui n'a pas été demandé dans des siècles passés, est demandé de nous aujourd'hui, exigé de nous. Ce qui n'a pas été exigé et demandé par les croyants dans le réveil pentecôtiste est demandé et exigé de nous aujourd'hui dans ce temps. Et nous devons être trouvés obéissants dans ce que Dieu nous demande, dans l'obéissance, le mettre en pratique. Nous ne pouvons pas marcher dans nos propres voies et penser atteindre le but. Nous devons aujourd'hui entreprendre le chemin que Dieu a tracé pour l'appel à sortir, pour l'exode et pour l'achèvement de l'église épouse. Le chemin qu'il a déterminé pour l'épouse, pour atteindre le but. Et ce chemin, c'est pas toi et moi qui le fixe. Ce chemin est déjà fixé par Dieu. Tu as seulement besoin de l'entreprendre, d'y marcher. Il a même été, n'est-ce pas, planifié, aplani, effrayé par le message que le Seigneur a envoyé. Nous devons seulement être obéissants et reconnaître le sérieux de l'heure. Nous devons savoir maintenant, il s'agit de tout. Il s'agit que Dieu maintenant veut confirmer sa parole parmi nous. Je l'ai dit aussi il n'y a pas longtemps, peut-être aussi le dernier dimanche à Zurich. Si nous croyons que Frère Branham était un homme envoyé de Dieu, avec le message de la restauration de toutes choses, tel que c'est écrit, que notre Seigneur le disait aussi, alors nous voyons de la manière plus claire qu'il avait un service, un ministère tout à fait restauré. Oui ou non? Frère Branham avait un ministère tout à fait restauré. Un ministère avec toute l'autorité divine, un ministère apostolique et prophétique. Il n'avait pas seulement le message de la restauration, il avait lui-même la restauration qui se tenait derrière ce message de restauration. Qu'est-ce que nous devons avoir à la fin? Seulement des paroles, comme message, sur lesquels nous nous disputons encore, sur lesquels nous allons dans les différentes directions, pas celle de Dieu. Non, que cela s'éloigne de nous. Le jour doit arriver où le message, messager et message et croyant des messages, et que tout soit en accord. Où les croyants du message sont en accord avec le message, sont un avec le message, et que tout ne doit pas être dans un désordre et une confusion. Mais où on peut dire, cela est vrai. Ici, c'est vrai. Et parce que c'est vrai, alors Dieu va aussi pouvoir se confesser à ce qui est vrai. Et c'est pour cette raison que nous avons ces réunions. Pour nous apporter un accord avec Dieu. Pour nous apporter un accord avec sa parole. Pas avec une interprétation. Ça, nous l'avons reconnu depuis longtemps. Ceux qui interprètent ne pourront certainement pas aller de l'avant. Nous, nous voulons que Dieu puisse nous donner d'aller de l'avant sur le chemin pour atteindre le but. Je lis ici, encore plus, et la chose suivante. Mais dans cette position divine et glorieuse, merveilleuse, sous le sang, nous faisons la différence entre le sang et la vie. Et la vie, le signe pour les croyants, maintenant, c'est le Saint-Esprit. Comme autrefois, le sang était le signe. Une constitution chimique. Mais aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est le signe. Autrefois, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas encore se répandre. La nouvelle alliance n'avait pas encore été faite. N'était pas encore venue. Le sang était le signe. Alors, ils pouvaient sortir. Ils restaient protégés. Rien ne leur arrivait parce qu'ils étaient sous le sang. Mais maintenant, le Saint-Esprit vient sur la troupe des rachetés. Et ça, c'est la réponse divine dont nous avons besoin tous. Et nous l'avons déjà dit, dans le baptême d'eau, celui qui a cru, par le baptême d'eau, le croyant prouve qu'il appartient à Dieu et qu'il veut servir et suivre le Seigneur. Il a écouté la parole, il a dit oui à la parole. Et il répond comme ça au Seigneur par l'obéissance, en faisant le pas, par cet appel de Dieu, en faisant le pas du baptême d'eau. Mais dans le baptême de l'Esprit, c'est Dieu qui répond aux croyants. Là, c'est Dieu qui répond à celui qui a cru, qu'il lui donne la réponse qu'il a acceptée, qu'il a agréée. Je continue à lire. Oh, nous vivons dans l'ombre. La colère est sur le point d'éclater. Dieu exige la preuve que vous avez vous-même reçu le signe du Saint-Esprit. C'est le seul moyen et la seule caractéristique qui permettra à Dieu de vous épargner. La seule marque qui permettra à Dieu de vous épargner. Car c'est la vie réelle de Jésus-Christ qui est revenue dans le croyant. Amen. Amen. Ça, nous l'avons, il n'y a pas longtemps, déjà un peu touché. Sans ici lire, sans avoir lu directement ce passage. La vie est dans le sang. Et au moment où le sang a coulé, la vie divine a été libérée. Et cette vie divine est revenue le jour de la Pentecôte sur le sang, sur la troupe des rachetés, pour que maintenant, Dieu ne soit pas seulement au-dessus de nous ou bien parmi nous, mais en nous, qu'il puisse habiter en nous, établir sa demeure en nous. Et aussi vrai que Dieu était en Christ, c'est ainsi que maintenant Christ est dans l'Église. Donc, Dieu exige cette preuve du Saint-Esprit. On a déjà donné cet exemple, si quelqu'un a une carte, un ticket de bus, alors c'est la preuve qu'il a payé le trajet. Alors, qu'est-ce ce dont nous avons besoin pour notre ascension, notre enlèvement? Et ça, je le pense très sérieusement. Tous nous voulons être enlevés. L'enlèvement est notre but. Alors, si nous ne l'atteignons pas, alors qui veut alors s'imaginer la déception que ce sera? Qui veut s'imaginer cette déception que ce sera? La déception ne sera pas chez les incroyants. Les incrédules, ils n'attendent pas un enlèvement. Où sera la déception? Elle peut que être là où une espérance est restée sans s'accomplir. Déçu sera seulement peut-être que celui qui pensait avoir promis une promesse, ou bien peut-être même qu'il a porté dans son cœur la promesse, sans aussi respecter dans le détail les conditions. Dieu a allié des conditions à tout. Et nous avons appris à distinguer une onction du Saint-Esprit et entre le scellement de l'Esprit que nous appartenons à Dieu. Nous sommes sa propriété. Et quoi qu'il vienne et qu'il part, rien ne changera. Nous appartenons à Dieu, nous restons son appartenance. Comme dans Romains 8, nous le lisons. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Quoi? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim ou la nudité, quoi? Le péril ou l'épée? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Et cet amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Si cet amour de Dieu est en nous, alors cet amour est une partie de moi-même, alors il faudra que je me sépare de moi-même. Alors, je n'ai pas de raison de le faire. Non. Dieu nous a accordé sa parole. Et pas seulement ça. Il nous a donné encore plus. Il nous a donné tout ce qu'il nous a promis dans sa parole. Et là, nous avons la prédication de Frère Branham. En possession de toutes choses. Même en possession des portes des ennemis. Qu'est-ce que c'était? C'était la foi dans le ressuscité. La parole qui donne la vie, la puissance qui donne la vie dans les croyants a fait que le Dieu vivant agisse et marche au milieu d'eux. Et la même chose doit à la fin avoir lieu. Que nous puissions prendre au sérieux ces choses et croire Dieu de tout notre cœur, mettre toute crainte de côté et avoir la crainte devant Dieu et faire confiance à Dieu et croire Dieu. Et comme déjà dit, nous laisser apporter un accord avec lui et sa parole, pour que, comme c'est écrit ici, car c'est la vie réelle de Jésus-Christ qui est revenue dans le croyant. Que Dieu était en Christ, ça nous le savons tous. Et qu'il pouvait dire, avec droit pouvait dire, celui qui me voit, voit le Père. Ça nous le savons aussi tous. Mais ensuite Jean 17, Père, toi en moi et moi en eux, afin que nous soyons un. Cet accord divin, tel que en Christ, chaque parole qui se référait à lui, en lui et par lui et en lui a trouvé son accomplissement. C'est ainsi que maintenant chaque parole qui a été donnée à l'église épouse doit en elle, par elle, à travers elle, trouver son accomplissement pour la gloire de Dieu. Car les Saintes Écritures ne peuvent pas être annulées. est brisée. Dieu époux et épouse vont ensemble et forment une union. Le Seigneur achève dans ces jours son œuvre. Dieu va passer en vous épargnant, car c'est la vie réelle même de Jésus-Christ lui-même dans les croyants. Comment est-ce que Dieu pourrait encore m'en vouloir si j'ai la vie de Jésus-Christ que je porte en moi, si j'ai reconnu que le Fils de Dieu sur la croix a pris ma place, a porté ma condamnation, a souffert pour moi, est mort pour moi, et que c'est vraiment à ma place qu'il mourut pour moi, et qu'il est allé dans la mort, à ma place, pour moi. Alors, par sa grâce, je peux vivre. Par sa grâce, j'ai été affranchi, acquitté. Et je crois que nous tous avons été acquittés, libérés. Et c'est pour cette raison que nous pouvons croire que aussi le reste va aussi s'accomplir à nous. Je le lis, je continue à lire. Il doit en être de même pour tous les croyants aujourd'hui, remplis du Saint-Esprit. Un signe que le sang versé de l'agneau, que la vie qui était dans l'agneau est revenue et a été scellée dans le croyant. Avons-nous bien entendu cela? Avons-nous déjà expérimenté cela? Voulons-nous l'expérimenter? Est-ce que notre cœur est touché? Avons-nous un désir après cela? Et disons, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je veux expérimenter ce que tu as dit personnellement. Ici, ou bien à Zurich, je vous l'ai dit. Dans ce jour, nous avons affaire à beaucoup de choses. Et que cela ne soit pas dit pour plaisanter, le temps est trop sérieux pour cela. Alors que j'étais là-bas aux États-Unis, alors que je voulais monter dans le Transworld Airline, j'étais déjà arrivé en haut. Et là, la steward m'a demandé, mais êtes-vous né de nouveau? Et vous pouvez vous imaginer, elle était maquillée tant qu'on le peut. C'est-à-dire que je ne juge personne. Chacun veut avoir une belle apparence, etc. Mais tout était maquillé jusqu'à tant qu'on le peut, au maximum. Et elle me demande, alors que j'étais en train de monter dans l'avion, Are you born again? Donc, êtes-vous né de nouveau? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai regardé seulement. Et vous pouvez vous imaginer, plusieurs passagers, je les ai retenus, ont été retenus à cause de ça. Et j'ai dit simplement oui, par la grâce de Dieu, je suis né de nouveau. Mais qu'est-ce qu'il y en a de vous? Et alors elle a commencé. Elle a dit, alors qu'est-ce qu'elle a commencé? Aujourd'hui, nous avons compris la nouvelle naissance, le baptême de cet esprit, la sanctification, tout ça, c'est devenu des mots, et la chose elle-même, l'expérience elle-même n'est pas dans la vie des croyants comme une réalité. C'est seulement des expressions pieuses, des titres, mais rien de réel dans les croyants. Et elle a dit, je sais pas en fait ce que c'est, la moitié des États-Unis est née de nouveau, mais je lui ai dit, au moins tu es sincère, tu as dit que tu sais pas ce que c'est, mais la moitié de l'Amérique n'est pas non plus née de nouveau. Revenons à ce texte précieux et important. De la même manière, cela doit avoir lieu avec chaque croyant. Être rempli du Saint-Esprit. Combien désire vraiment cela, d'être rempli du Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit, aussi d'être utilisé par le Saint-Esprit, inspiré par lui, pénétré par lui. Combien le veulent? C'est vraiment le temps, je vous le dis, c'est le temps maintenant pour ça. Et Dieu ne va pas accorder quelque chose si ce n'est que cela soit devenu notre désir et que notre désir ait atteint un tel niveau que nous ne pouvons plus supporter de vivre sans ça. Alors Dieu accordera. Et Dieu va accorder de sa plénitude et par sa grâce. Il accordera. Tous ceux qui passent devant vous, vous parlent. La vie qui était dans l'agneau est revenue et a été scellée dans le croyant par le Saint-Esprit. Tous ceux qui passent à côté de vous, vous parlent ou sont avec vous en contact, verront que le sang a été appliqué. La preuve de la vie qui était dans le sang est en vous. Vous êtes à l'abri de la colère. Pas les paroles sont la preuve. Pas les prédications. Mais la vie de Dieu lui-même en nous est la preuve que Christ habite en nous, a établi sa demeure dans notre cœur. Alors il dit ici ensuite, l'Église dans ce temps, qui a le signe du qui a reçu le signe du baptême du Saint-Esprit, est lavée dans le sang et le Saint-Esprit est sur elle. Je ne sais pas comment est-ce que nous lisons les prédications. Il y a beaucoup d'efforts qui est lié à cela, à la traduction, à les corriger, à les relire, à les imprimer. Beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail lié à cela. J'espère que nous les lisons ensuite et que nous ne soyons pas seulement en train de lire ce que nous aimerons bien lire, mais lire pour écouter, entendre ce que l'Esprit dit aux églises et pour permettre à Dieu de nous parler par ces prédications-là. Il y en a assez qui trouvent dans la Bible exactement les versets qu'ils trouvent, qu'ils cherchent. Exactement les versets qu'ils cherchent. Mais pas les versets qui pourraient les aider eux-mêmes. Ça, ils ne les trouvent pas, par contre. Donc, continuons à lire. Maintenant, c'est le temps du signe. Chaque maison doit être sous la protection du sang. Du signe, pardon. Toute maison de Dieu doit être protégée par le sang. Tout. Ceux qui étaient à l'intérieur restaient protégés sous le signe. La maison de Dieu est le corps de Jésus-Christ. Par un seul esprit, nous sommes baptisés sous ce signe, dans un seul corps, et c'est ainsi que nous sommes devenus une partie de ce corps. Dieu disait, quand je verrai le signe, je passerai en vous épargnant au-dessus de vous. Nous pouvons ici aller dans Hébreux, au chapitre 3. Je voudrais dire, je crois que chapitre 4, où il est dit que Moïse était fidèle dans toute sa maison. Et Christ, comme fils, est fidèle dans sa maison, dans la maison de Dieu. Nous pouvons aller dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, pour que tu saches comment se comporter, se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église, la colonne et la fondation de la vérité. Dieu a une maison, une habitation en esprit, une maison sur terre, un corps, pour agir par ce corps et habiter, marcher par ce corps. Et ça, nous le sommes. Mais il veut habiter en nous, demeurer en nous, être en nous. Il veut vraiment prendre sa demeure, établir sa demeure en nous et dans cette maison, pouvoir faire ce qu'il veut, ce qu'il s'est proposé de faire. Sous ce signe, êtes-vous protégés? Tous ceux qui sont à l'intérieur restent protégés. Mais bien aimé, le corps de Christ, tous les membres qui appartiennent au corps de Christ à Golgotha ont été déjà condamnés. Alors que Jésus-Christ, notre Seigneur, a porté notre condamnation à notre place, il a fait. Notre condamnation est tombée sur lui. C'est peut-être que celui qui croit ne sera plus jugé, mais il est passé de la mort à la vie. Nous ne sommes pas déterminés au jugement, mais à hériter le salut. Il y a assez de versets bibliques. Nous pouvons les croire de tout notre cœur. Mais encore plus, nous voulons les expérimenter personnellement. Maintenant, arrivent les jours où nous devons expérimenter ces choses. Les jours de l'expérimentation de ces choses personnellement, où Dieu veut se manifester, veut nous accorder ces choses dans la réalité. Nous pouvons, avec un message si puissant, et ça, je ne le dis pas pour s'élever, je le dis avec reconnaissance, il n'y a pas un évangéliste qui aurait aujourd'hui un message de Dieu à apporter. Tous, ils sont passés à côté de ce que Dieu a fait. Ils ont fait qu'ils prennent la parole qui était à leur avantage, c'est ce qu'ils ont pris. Et ensuite, ils ont marché dans leur propre voie, sans comprendre quel chemin Dieu suit avec l'Église. Alors, s'il y a un appel qui doit être apporté, à sortir, alors ça ne peut qu'avoir lieu par ce message donné par Dieu, venu de la parole de Dieu, révélé par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez ça différemment? doit produire la sortie. Qui a dit du haut des cieux, vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ne touchez rien d'impur. Séparez-vous. Nous pouvons porter le message. Mais qui suscite la foi? Qui appelle à sortir? Qui conduit à la repentance? C'est l'Esprit de Dieu qui fait toutes ces choses. Nous ne sommes que des nous faisons que voir ce que Dieu fait. Je crois qu'un enlèvement aura lieu. Je crois qu'une épouse existera. Sans tâche, sans ride irréprochable. Je crois qu'un appel à sortir, une préparation, un achèvement, une perfection aura lieu et doit avoir lieu. Je crois que ce temps vient sur nous, nous qui vivons maintenant. Et si frère Branham ici dit, dans les jours de Luther, ici, ils avaient mis l'accent sur ceci, l'état de Wesley. Mais maintenant, sur quoi on met l'accent aujourd'hui? Aujourd'hui, tout est rassemblé, tout est réuni, tout. L'accent est mis sur tout pour que nous puissions voir comment est-ce que l'Esprit de Dieu nous ramène au commencement du temps des apôtres. Je relis encore. Maintenant, l'Esprit de Dieu lui-même est le signe. Le Saint-Esprit, le signe. Le Saint-Esprit lui-même en soi est le signe, lui-même. Le sang à Golgotha a coulé. Ça, c'est vrai. Mais regardez dans les cellules du sang, il y avait la vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je parlais, je crois, hier avec les frères de la langue française, rapidement, brièvement, sur ce mot seul engendré. Jésus-Christ, le Fils seul engendré de Dieu. Il n'y avait rien de quelqu'un d'autre qui a été ajouté. Pas unique, mais seul engendré. Donc, tout ce qui appartenait à l'engendrement, c'est Dieu lui-même qui a engendré. Tout est venu de Dieu à 100%, divinement. Tout est venu de Dieu. Tout. Il n'y a rien. Il n'y avait rien en ce que le diable aurait pu avoir comme droit. J'aurais presque dire, unilatéralement, le Fils seul engendré de Dieu, par ce sang saint qui a coulé par ses veines, nous avons été rachetés. C'est ainsi que c'est écrit aussi. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 26 jusqu'au verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Sur la croix à Golgotha, le sang divin a coulé, le sang de Dieu, pour ici sur terre, accomplir pour nous une rédemption divine, éternelle. Et nous avons la grâce de le croire de tout notre cœur. Si nous pouvons le croire ainsi, alors nous pouvons aussi être heureux, nous réjouir, être heureux de ce que le Seigneur du ciel s'est dépouillé de sa divinité, est devenu homme, trouvé comme un homme, semblable à un homme, pour nous ramener dans la condition divine de fils et de filles. Sommes-nous encore reconnaissants pour cela? La reconnaissance doit nouvellement en nous monter, grandir. Ici, il est écrit. Oui, merci. God bless you, brother. Le ministère de l'épouse et le ministère de l'époux est le même ministère. Alors, qu'est-ce que c'est? Page 13. Dans la prédication, le signe. Le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont le même ministère. Autrefois, le Seigneur disait, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause des œuvres. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. L'heure doit arriver où nous pouvons dire, si vous ne nous croyez pas, alors croyez au moins à Dieu qui fait ses œuvres ici parmi nous. C'est-à-dire Christ en nous. L'espérance de la gloire. Mais aussi la résurrection, la puissance de la résurrection. Maintenant arrive encore plus. Ô frère, l'heure dans laquelle la preuve doit être visible est proche, elle s'est rapprochée. Nous pouvons déjà le voir. Nous savons que nous sommes proches de la fin. Voyez les multiples messages et les signes et miracles qui se sont produits. L'heure dans laquelle cela doit devenir visible, le signe, la preuve est proche, être proche. Où cela doit devenir visible tant d'années plus tard. Qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui? Après tant d'années, aujourd'hui nous pouvons dire c'est très proche. C'est en train d'apparaître. L'heure dans laquelle la preuve doit devenir visible est proche. est proche. Alors, dans quel état nous devrions être avec tout ce que nous sommes et avons pour nous consacrer à Dieu, vraiment nous mettre à sa disposition pour qu'il puisse continuer son œuvre en nous et ensuite l'achever. Il est écrit encore ici. Ici, nous nous tournons vers ce qui doit se passer par l'Église. La preuve doit être manifestée. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, en vous épargnant. Rien d'autre peut le produire. Il faut que ce soit le sang. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est notre preuve de Dieu. Maintenant, peut-être un peu cette remarque. Il n'y a pas longtemps, nous l'avons fait déjà ici. Nous pouvons aussi dans ce point et dans ce domaine, nous ne pouvons pas regarder à nos manquements et aux manquements des autres, à ce qui a échoué. Regardez tel que c'est. Combien ont loué le sang de l'agneau sans toujours avoir vécu comme sauvé, régénéré, transformé, racheté. Cela n'a pas toujours réussi aux croyants de vivre avec Dieu comme ils auraient bien voulu. Combien ont reçu le Saint-Esprit qui ne sont pas restés dans l'expérience, qui sont devenus désobéissants. Ou bien alors, il y a plusieurs choses qui se sont passées dans leur vie. Est-ce que nous devons regarder à cela? Alors, nous n'allons jamais expérimenter Dieu. Nous devons regarder au Seigneur. Pas les uns, les autres. Pas à nous-mêmes, mais au Seigneur. Pas à ce qui est allé de travers, mais au Seigneur. Et merci le Seigneur accorde sa grâce encore. Alors, cette grâce que nous puissions apprendre même de ce qui nous a pas réussi et de ce qui n'a pas réussi aux autres pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et alors, peut-être même encore que cela aura servi à quelque chose, que ces erreurs auraient été faites. Mais jamais regarder en arrière et se laisser retenir par ce qui est allé de travers, mais apprendre plutôt des erreurs qui se sont passées. Par exemple, si Miché avait dit, « Ah, ces 400, ils ont prophétisé puissamment. Qu'est-ce que moi, je dois encore venir comme seul individu dire autre chose ?» Non, il ne s'est pas laissé égarer par ces 400. Il a dit, « Ce qui est faux, mais ce qui est vrai reste vrai. » Et les gens qui sont, n'est-ce pas, ces deux que tu l'avais appelé, on dit, mais écoute, joins-toi à nous. Joins-toi à tout ce que les autres ont dit et dis la même chose. Alors, les paroles merveilleuses sont venues de sa bouche. Seulement, ce que mon Dieu m'ordonne à dire, c'est ce que je dirai. Il ne s'est pas laissé retenu par ce qui se passait. Il a exposé ce qui avait été prononcé par Dieu, planifié et révélé par Dieu. Est-ce que nous ne devons pas faire la même chose? Est-ce que frère Branham s'est retenu par tous ces évangélistes qui étaient autour de lui, qui feraient que distraire les gens et attirer les gens à eux et rendre les choses plus difficiles? Au lieu de prendre part à ce que Dieu faisait, ils ont voulu attirer la foule à leur personne et à leur travail. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils sont devenus tous des... C'est à cause de que tous ces royaumes ont apparu, ces empires, dans le royaume de Dieu. Et chacun marche dans sa propre voie et bâtit son empire. Est-ce que moi je dois continuer à arrêter de voyager parce que beaucoup voyagent sans avoir été appelés et envoyés? Ce serait le plus grand piège du diable. Bien sûr que je dis, Seigneur, je ne peux plus. Bien sûr que je dis assez souvent, Seigneur, je ne veux plus. Je ne peux plus, je ne veux plus. Mais quand le temps est là et que je regarde le calendrier, je n'ai pas un seul week-end libre. Tout est planifié. Et malgré tout, je dis, Seigneur, je ne peux plus. Je ne peux pas. Et malgré tout, avec l'aide de Dieu, je dois aller. Et je suis convaincu que si un jour on me jette dans la mer comme Jonas, je vais en ressortir au bord là-bas, de l'autre côté. C'est comme ça que ce sera pour tous ceux qui vraiment ont été appelés. Tu ne peux pas fuir et te détourner d'un appel divin. J'aurais été heureux d'avoir perdu ma vie à l'époque dans la mer. Ça aurait été une bénédiction pour moi. Je lis ici encore. Alors que cela a eu lieu, le signe vint sur eux. C'est répandu sur eux. Ils ont été identifiés ainsi par les œuvres et les signes et les miracles du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue. Ils prophétisaient et glorifiaient Dieu. Ils ont été identifiés avec le sacrifice apporté. Le Saint-Esprit confirme notre appartenance à Christ. Amen. Pas à une église. Le Saint-Esprit confirme notre appartenance à Dieu, à Christ. J'ai une question. Je suis détendu, que vous le croyez ou pas. Je suis tout à fait détendu. Je suis un peu revenu faible de l'Afrique, mais je suis entièrement détendu. Mais je sais que l'œuvre de Dieu n'est pas dans les mains d'un homme. L'œuvre de Dieu est remise entre ses mains. C'est lui qui l'a commencé et c'est lui qui l'achèvera. Et cela avec grande puissance et gloire. Et les vases les plus appropriés pour lui sont ceux qui sont faibles. C'est eux qui vont pouvoir mieux utiliser. Mais j'ai quand même une question à poser. Nous sommes, n'est-ce pas, entre nous. Mais je ne vais pas mettre mes lunettes parce que je veux vous voir tous d'un seul regard. Qui a peur de parler en langue? Qui a cette pensée secrète ou même parfois même, j'appelle cela un sentiment étrange quand il entend que on pourrait parler en langue? Qui ne se sent pas bien, ne lève pas les mains? Je crains que trop de mains se lèvent. Mais même si vous ne les levez pas, je vous dis une chose. Vous devez prier jusqu'à ce que cette crainte vous quitte, vous soit ôtée, cette crainte de recevoir quelque chose de faux de Dieu. Chaque croyant doit, cela doit être ôté à chaque croyant. J'ai assez d'écritures pour ça. Si vous, qui êtes mauvais, méchant dans votre cœur, vous ne pouvez pas donner quelque chose de mal à vos enfants. Comment est-ce que le Père ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Et il dit, c'est vous qui êtes méchant, vous savez donner des bons dons à vos enfants. Alors si le Fils demande un poisson, le Père ne lui donnera pas un serpent ou bien du pain, il ne lui donnera pas un scorpion. Nous devons, cette crainte doit nous être ôtée. On doit la porter sous la croix. Car dans cette crainte que quelque chose pourrait arriver de faux, qui ne vient pas de Dieu, si vous le compreniez ou pas, ce que j'ai craint, disait Job, est venu sur moi. Beaucoup craignent de recevoir quelque chose de mal, un mauvais esprit ou quelque chose. La plupart, quand ils ne sont pas complètement libres et que l'ennemi encore a un droit sur eux, alors cette pensée vraiment s'infiltre, quelque chose de mauvais s'infiltre dans leur pensée. Mais si vous voulez prier pour le baptême de cet esprit, vous devez croire à une rédemption totale à 100%, un pardon, la grâce de Dieu à 100% qui vous a été accordée, et aussi croire que le diable a perdu tout droit sur vous et que chaque puissance de Satan a été brisée et détruite et que le Seigneur a brisé la tête du serpent et qu'il est ressuscité comme vainqueur le troisième jour. Et il a dit, je vis et vous vivrez aussi. Alors, si de cette manière nous pouvons croire que tout est accompli et que vraiment, nous n'avons aucune crainte, cette crainte, jusqu'à aujourd'hui, est venue sur chacun qui prie pour le baptême de cet esprit. Nous devons vaincre. Il n'y a aucun qui a expérimenté le baptême de cet esprit que l'ennemi n'a pas soufflé dans les oreilles. Fais attention. Là, ne sois pas fanatique. Fais attention. L'ennemi vient avec tes pensées quand les gens veulent recevoir le baptême de cet esprit. Il va venir pour vous faire peur, pour vous retenir de ne pas croire Dieu et expérimenter Dieu. Si l'ennemi vient avec de telles pensées, alors nous devons lui dire avec la parole de Dieu, arrière de moi Satan, et dire, Satan, arrière de moi, mon Seigneur me donnera pas des scorpions ou bien des serpents, mais du pain et du poisson ou bien du Saint-Esprit, mais pas quelque chose de mal. Encore une fois, je le répète, nous devons apporter cette crainte sous la croix. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait chasse la crainte. L'amour parfait. Alors si nous tous, nous sommes vraiment ouverts devant Dieu et nous confessons à Christ d'avoir reçu la grâce de lui, d'avoir été racheté par lui, sauvé et délivré par lui, et que Satan a perdu tout pouvoir sur nous. Il y a même des gens qui prononcent cela ainsi et disent, Satan, tu n'as aucun droit sur moi. Jésus-Christ m'a racheté, m'a sauvé. Ton temps est passé. J'appartiens au Seigneur entièrement. On doit avec les lèvres confesser ce qu'on croit dans le cœur. Et alors cela devient la lumière. Alors la clarté vient. Alors la certitude. Alors la confiance. Et subitement, tous, nous sommes ravis dans une atmosphère qui est libre de toutes ces doutes qui nous affligent. Libre de toute cette incrédulité et de ce mélange de toutes sortes de pensées. Subitement, on peut s'élever au-dessus de ces attaques du diable qui d'abord a lieu. Et cela a lieu dans la prière, dans la consécration, dans la dévotion à notre Seigneur. Et au moment où on se met à sa disposition, où on atteint ce point, je dirais, on attend cette bataille qui a lieu avec chacun qui cherche cette expérience, où on est sorti de cette bataille, on sort de ce domaine de la bataille, alors que subitement ça a lieu que nous sommes entourés de l'air céleste, de l'air du ciel. Alors l'âme, on ressent tout de suite, subitement, on ressent comme quand on se noie et puis on est relevé, on est ressorti de l'eau. Alors on peut dire simplement, mon âme exacte, Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, comme Marie l'a dit. Il faut que ça arrive à ce point où subitement, de cette bataille, comme si on est en train de se noyer, et subitement on est ressorti de l'eau. Et puis subitement on respire. C'est comme ça, avec le message, avec toutes les prédications. Qui n'a pas eu de bataille? L'ennemi vint et dit, mais est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est juste? Est-ce que cet homme doit avoir raison et tous les autres n'ont pas raison? Non, cela n'a jamais été prêché. Vous ne connaissez pas tous vos propres arguments avec lesquels vous aviez eu affaire? Combien d'arguments il n'y a pas aujourd'hui? Et c'est la même chose avec une expérience avec Dieu. Des autres arguments viennent, mais ils viennent. Nous devons une fois arriver à ce point de la certitude, de la foi. Qui peut encore venir et dire, frère Franck, crois-tu que tout cela est juste? Ce que le frère Branham a prêché. Je dirais même au diable, en face du diable, que tout est vrai. Et à tous les hommes aussi. Pourquoi pas? De moi, non pas de moi, mais de l'absolu, de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la certitude. Et tout est vrai, c'est pas oui et non, mais c'est oui et amen. Et si nous avons compris cela, que toutes tes expériences avec Dieu sont la même chose, sont sur cette base de la foi, aucun doute de la foi. C'est à ce moment-là seulement où nous disons amen à Dieu et que nous avons reconnu que cela est de Dieu. Alors que même tout n'était pas encore clair pour nous et que dans la foi, nous mettions quand même tout du côté de Dieu. C'est ce qu'on sait comme ça a commencé. C'est la clarté nous a été accordée, la clarté, l'une après l'autre, la vérité, par vérité, clarté après clarté. Donc s'il vous plaît, prions à notre Dieu, demandons à notre Dieu et notre Père, demandons-lui de notre cœur, demandons-lui de nous faire sortir de ce domaine de la bataille, des attaques qui viennent dans nos pensées, de nous faire sortir de tout cela, de nous placer sur un fondement élevé et subitement, nous ressentons que quelque chose nous entoure et quelque chose se passe autour de nous et en nous. Je crois que Jésus-Christ, aujourd'hui encore, est le même. Je crois qu'aujourd'hui encore, il baptise d'esprit et de feu. Je crois que nous avons été ramenés au commencement et que cela appartient à cela. Toutes les expériences du salut et ce que Dieu veut faire à la fin, pas à la pluie de l'arrière et l'avant-saison. Ça va encore venir. La pluie de l'avant et l'arrière-saison, cela va venir. Mais nous allons recevoir tout ce que Dieu nous donne. Mais ces expériences du salut jusqu'au baptême, ces expériences, nous n'avons pas besoin de les attendre. Nous pouvons déjà maintenant les expérimenter. Nous avons été rachetés. Le sang divin a coulé. La vie divine a été libérée. L'Esprit de Dieu, la vie de Dieu, la nature de Jésus-Christ est maintenant dans les croyants, dans la troupe rachetée par le sang. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Maintenant, sa vie est en nous. Qui était dans ces jours? Une bien-aimée sœur. C'est bien que ma mémoire n'est pas bonne, mais elle disait, alors que j'étais jeune, elle a toujours chanté Christ est ma vie. Mais avec 14 ans, Christ est ma vie et mourir est un gain. Elle ne pouvait pas. Mais mourir est un gain. Elle ne pouvait pas comprendre. Elle, à 14 ans, elle ne pouvait pas comprendre cette écriture. Pourquoi est-ce que mourir serait un gain? Maintenant, on comprend. Christ est ma vie et mourir est un gain. Nous sommes morts avec Christ et nous sommes crucifiés avec lui, ensevelis avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie avec lui. Assis dans les jeux célestes en Christ, assis dans les jeux célestes. C'est ainsi que c'est écrit, c'est ce que nous croyons dès maintenant. Tel que c'est écrit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et nous l'attendons. Si nous croyons, nous devons aussi l'attendre. Hein? Tel que notre corps a des pieds et a la vie et marche, c'est comme ça que spirituellement aussi, nous devons nous tenir avec des pieds fermes sur ce que Dieu a dit. Ceux qui viennent à Dieu et souhaitent là le salut, il faut qu'ils croient que Dieu l'a sauvé en Christ quand il mourut. Celui qui ne veut pas croire, il ne peut pas plaire à Dieu. Il ne pourra pas plaire à Dieu. Celui qui veut être sauvé doit croire que Dieu l'a sauvé et recevoir son salut. Venons, je dis, dans la foi. En toute chose, c'est pas la foi. Et que personne soit parmi nous qui, eux, conduit encore cette bataille depuis des années. Oh, je ne sais pas si cela est vrai. Je ne sais pas si on peut les augmenter aujourd'hui. Laisse-moi te dire cela aujourd'hui. Bien-aimé cœur, tout ce qui est biblique et que nos frères au commencement et sœurs ont expérimenté, cela est vrai aujourd'hui encore pour nous dans ces jours. Oui ou non? L'amen était trop faible. Trop faible. Dieu veut avoir un amen à haute voix. Parce que vraiment, il y en a qui ont des difficultés à dire amen. Il y en a qui disent, ah, les temps sont passés, c'était le réveil de Pâques Baptiste. Aujourd'hui, on ne peut plus expérimenter le baptême de cet esprit, etc. Mais là, aucun noyau peut manquer à la chaîne. Justification, sanctification et baptême de cet esprit. Et ensuite, perfection. On ne peut pas ôter des choses et ensuite faire un pont. Le pont ne va pas aller vers... Le saut ne va pas aller vers le haut. Ce saut va aller vers le bas. On doit croire comme dit les Écritures. Nous voulons donner raison à Dieu. Si nous voulons croire comme dit les Écritures, si nous voulons voir l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu, nous devons croire comme dit les Écritures. Rien ne va nous nuire, rien. Rien ne va nous nuire. Si on veut expérimenter le surnaturel, nous voulons ensemble servir le Seigneur et lui donner raison et le servir et être heureux. Rien ne va nous nuire si nous voulons expérimenter Dieu et que nous croyons comme dit les Écritures. Qui veut se réjouir? Qui veut se réjouir? Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est le plein message, le plein salut. Ça, c'est l'enseignement des apôtres. Et nous avons arrivé à ce point. Et ensemble, c'est comme ça que nous serons ramenés au commencement par les mêmes expériences que nos pères ont fait. Que Dieu puisse nous accorder son signe. Vraiment la marque, la preuve, sa preuve, son signe, son sceau, le sceau du Saint-Esprit. La vie de Dieu lui-même, que la vie de Dieu lui-même est revenue dans la troupe des vainqueurs. La troupe des rachetés par le sang. Que notre Dieu soit remercié pour cela. Ça c'est oui, amen. Nous croyons à une œuvre accomplie de la rédemption. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Levons-nous. Et ensemble, nous voulons apporter l'honneur au Seigneur. Mon Rédempteur, de tout mon cœur, je te remercie pour ta sainte et précieuse parole. Je te remercie pour les prédications oint. Les ointes de ton serviteur, de ton esclave serviteur et prophète que tu as envoyé dans nos jours pour ramener nos cœurs à la foi de nos pères, un retour pour produire un retour parmi ton peuple de Dieu, sortir de nos opinions, de nos propres chemins, de nos propres pensées, de nos propres imaginations, de nos propres interprétations, revenir à Dieu, revenir à ta parole. Seigneur, nous voici aujourd'hui ce soir. Mettre fin à cette bataille. Accorde-nous la victoire de Golgotha. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons. Satan, tu as perdu ton droit. Ici, nous sommes la troupe des vainqueurs, rachetés par le sang. Alléluia. Gloire et honneur. Adoration. Sois au Dieu vivant. Alléluia. Que tous ceux qui croient disent Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, ramène-nous là, où nous pouvons croire, comme le dit les Écritures, pour que nous puissions voir ce qui a été promis dans les Écritures, que tout s'est accompli et que tout s'accomplit selon ta parole, selon tes promesses. Mon Dieu, fais-nous grâce à nous tous. Que notre foi soit sur les Écritures et aide-nous pour que comme vainqueurs, nous puissions apparaître. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit la gloire, la louange et l'honneur. Seigneur, je te remercie pour le sang versé, pour la rédemption, pour le pardon, pour le salut, pour la grâce, pour la vie éternelle. Dieu fidèle, accorde-nous la réponse et la confirmation que nous sommes ta troupe rachetée par ton sang et que tu restaures, tu restitues tout ce qui était dans le dispositif et tu ramènes haute l'incrédulité, la peur, la crainte et tout doute. Ravis-nous dans une foi d'atmosphère sainte pour la gloire de ton nom. Nous avons affaire à toi, le Seigneur ressuscité. Fais de grandes choses. Fais de grandes choses par ta grâce. Seigneur, dans ces jours, qu'aujourd'hui, le commencement ait été fait. Commence maintenant.